Chapitre 9. Quelques embarras. Monsieur et Madame Tyrold revinrent à Hetherington, l'esprit plus tranquille, mais sans cependant savoir encore à quoi s'arrêter. Ils avaient appris de Sir Hugh qu'Edgar avait décidément désavoué toute espèce de prétention sur Indiana, s'était de lui-même retiré de Clèves, et que ni la famille ni le voisinage ne pouvaient s'abuser sur une déclaration si formelle. Il était inutile de justifier auprès de Madame Tyrold cette indifférence pour la beauté la plus parfaite. Ses premières espérances se réveillèrent, elle voulut voir Edgar avant son départ. Le mécontentement qui lui avait inspiré s'était évanoui, et la justice qu'elle rendait à son mérite, cette affection presque maternelle qu'elle portait à sa personne, avaient repris dans son cœur leur place ordinaire. Elle se reprocha même comme un tort véritable d'avoir formé le projet de quitter le royaume sans lui faire ses adieux. M. Tyrold se trouvait toujours heureux de seconder des mesures de conciliation. Il les proposait le premier quand il avait quelque espoir d'être écouté. Il envoya donc un billet à Edgar par lequel il invitait à venir passer la matinée du lendemain à Hetherington et Mme Tyrold remit son départ à l'après-midi. Sa première pensée avait été d'emmener Camilla, mais elle réfléchit que le seul but de son voyage était de soigner et d'apaiser un malade aigri dont elle ne pourrait pas quitter la chambre jusqu'à son retour dans sa famille. Elle crut d'ailleurs devoir laisser à son mari la consolation d'avoir Camilla près de lui. Sir Hugh avait beaucoup de chagrin de l'absence de Camilla, mais M. Tyrold, après une longue conversation avec le docteur Orkborn, avait déterminé le baronnet à ce sacrifice. Le lendemain matin, Edgar arriva de bonne heure à Hetherington. Madame Tyrold avait pris ses mesures pour employer Camilla dans une pièce de l'étage au-dessus, de manière qu'elle ne pût pas l'entendre quand il entrerait dans la maison. Il reçut l'accueil le plus empressé. On lui fit part du voyage arrêté si subitement, mais sans en dire le sujet. Il la prit avec un intérêt qui n'était point fin, et offrit avec vivacité d'accompagner Madame Tyrold si elle n'avait pas encore fait choix d'un autre. À cette proposition, M. Tyrold passa ses bras autour du cou d'Edgar, pendant que sa femme lui disait, dans le transport de sa reconnaissance, « Mon cher, mon excellent Edgar, vous êtes l'image, le véritable fils de votre tuteur !» À peine eut-elle prononcé ces paroles que, frappée du souvenir des fautes de Lionel, elle regarda Mandelbert avec inquiétude, cherchant à voir s'il l'avait comprise. Mais le feu qui monta soudain au visage du jeune homme et ses yeux baissés lui persuadèrent qu'il faisait de ce qu'elle avait dit une application toute différente. Pour s'en assurer, elle songea comment elle pourrait amener naturellement le nom de Camilla. Mais son mari, qui ne pouvait voir la peine de personne sans chercher à la soulager, se mit à parler du voyage de Lisbonne et remercia mille fois Edgar de son offre obligeante. Cette conduite de M. Tyrold donna à Edgar le temps de se remettre. Au bout de quelques moments, il parut être affecté d'une idée subite, et, disant à peine adieu, il courut reprendre son cheval. Madame Tyrold éprouvait la plus vive perplexité. Mais comment entrer dans une explication sans blesser la délicatesse de sa fille? Elle le laissa donc partir. Elle continua ses préparatifs qui durèrent jusqu'au moment où la chaise fut devant la porte. Toute la famille était rassemblée et chacun, le cœur triste, recevait le dernier adieu de Madame Tyrold quand tout à coup la porte du salon s'ouvrit et Edgar entra, suivi du docteur Marchmont. Tout le monde fut surpris, mais personne autant que Camilla, qui, dans sa première émotion, ne se souvenant plus que de cette douce intimité qui avait régné entre eux, s'écria « C'est Edgar, que vous êtes heureuse, ma chère maman. Je craignais que vous ne partissiez sans le voir. » Edgar s'approcha d'elle. La voix de Camilla, ses manières franches et l'intérêt si naturel qu'elle venait de montrer en le voyant, pénétrèrent son âme. « Est-il possible, lui dit-il, que vous ayez la bonté de me voir aussi favorablement ?» « Quoi, vous pouvez dans ce moment même ?» Il voulait ajouter « Pensez à moi ?» Mais le docteur Marchmont, s'avançant, le pria d'expliquer le motif de leur visite. Edgar, en ce moment, avait peine à se le rappeler, et Camilla, craintive et se repentant de n'avoir pas su tenir une résolution dictée par ses principes, se retira du côté de la fenêtre. Monsieur et Madame Tyrold observèrent ces mouvements involontaires qui décelaient la sympathie de leur cœur, et cette attention redoubla l'embarras d'Edgar quand il s'approcha d'eux. Alors il leur dit que Madame Tyrold, ayant refusé de l'agréer pour son chevalier, il était allé chercher à Clèves quelqu'un qui lui semblait ne pouvoir manquer d'être accepté. Le docteur Marchmont offrit ses services avec beaucoup d'empressement, déclarant que depuis longtemps d'ailleurs, il désirait trouver une occasion de voir le Portugal, et protestant qu'outre le plaisir qu'il éprouverait à remplir les vues de M. Mandelbert, ce serait encore un véritable bonheur pour lui de donner cette preuve de sa reconnaissance à M. Tyrold. Il ne demanda qu'un jour pour faire ses préparatifs et trouver une personne sur laquelle il pût se reposer pendant son absence de ses fonctions ecclésiastiques. Monsieur et Madame Tyrold furent également touchés de la bonté du docteur Marchmont et de la délicate attention d'Edgar. Madame Tyrold voulait néanmoins se refuser à la complaisance du docteur, mais son mari la pressa de l'accepter. Il fallait que ce voyage pût tranquilliser ceux qui restaient à la maison et ne point compromettre la sûreté de celle qu'il entreprenait. La chaise fut commandée pour le lendemain. Le docteur Marchmont sortit, mais Edgar demanda quelques moments d'entretien à M. Tyrold. L'espérance se ranima dans le cœur maternel de Madame Tyrold. Elle crut que sa Camilla allait être demandée en mariage, et ce ne fut pas sans un peu de palpitation qu'elle vit M. Tyrold conduire Edgar dans son cabinet. Mais celui-ci, quoique son cœur fût tout à Camilla, avait reçu du docteur Marchmont un coup d'œil qui l'empêchait de se déclarer. Il s'ouvrit simplement sur la méprise qui venait d'avoir lieu à Clèves. Il se défendit de toute espèce de versatilité dans sa conduite en assurant qu'il n'avait jamais donné à Indiana des soins et des attentions autres que ceux qu'il avait eus pour elle dans les premiers temps. Tout cela fut dit avec une ingénuité à laquelle la franchise de son caractère donnait une force supérieure à toutes les protestations. « Mon cher Edgar, répondit M. Tyrold, je suis persuadé de votre probité. Votre vie m'en est un garant certain, et ce serait vous dégrader que d'entrer dans une plus longue justification. Je ne connais pas de perfidie moins excusable que celle qui nous porte à tromper l'affection d'une innocente créature. Cette conduite est encore, s'il est possible, plus lâche que cruelle, car les femmes les plus dignes d'estime, les plus honnêtes, sont forcées par leur délicatesse à souffrir sans se plaindre, et celui qui veut abuser leur confiance s'adresse communément, pour éviter les reproches, à leur sensibilité même qui leur a servi pour surprendre leur estime. Personne, dit Edgar, n'entre plus que moi dans ces sentiments. Je crois qu'il n'est aucune situation, aucune particularité, qui puisse me faire dévier de ces principes. Il faudrait d'ailleurs que je fusse aussi dépourvu d'esprit que de morale pour songer. Que dites-vous ? Je vous demande pardon, mon cher monsieur, mais quoique j'estime fort Miss Winmer, et quoique sa beauté soit parfaite, je ne sais pas si son cœur... Il hésita. Pensez-vous que son cœur soit inaccessible ? Non, pas précisément, peut-être, répondit-il avec embarras, mais je ne pense pas qu'il éprouve ces sensations si délicates qui trompent toute espèce de surveillance sur soi-même et forcent à céder par degrés aux impulsions de la sympathie. Non, Miss Winmer ne court pas un pareil danger, et je ne crois pas que ceux qui lui rendent des soins y soient plus exposés. En suivant ainsi le fil de ses idées, après avoir établi les raisons qu'il avait de croire qu'on pouvait rester insensible pour Indiana, il se trouva conduit, involontairement, à exprimer ce qui rendait irrésistible le doux attrait de Camilla. Il prononça même sa dernière phrase avec une énergie qui fit sourire M. Tyrold. « Vous paraissez avoir profondément étudié ce sujet-là. »« Ce n'est pas du moins à l'école de Miss Winmer, » répondit Edgar en riant. Mais à peine avait-il lâché ce mot qu'il rougit, craignant de s'être trahi lui-même. Il s'arrêta, confus de ce qu'il voulait dire. Mais bientôt, poussé par une force qui le maîtrisait, il continua. « Non, je ne pense pas que cette vivacité du sentiment, que tout ce charme du cœur qui brille dans les yeux, parle dans chaque trait, embellit le sourire. » Il s'arrêta de nouveau, comme effrayé du tableau qu'il allait tracer. M. Tyrold l'écoutait, il fut contraint de poursuivre. « Rien, enfin, dit-il, ne peut véritablement charmer l'homme, même le plus sensible, s'il est sans espoir de voir partager ses sentiments. Je crois que je me suis fait assez comprendre. Et d'ailleurs, je voulais seulement expliquer ici ma retraite de Clèves. Il serait cruel, dans un moment comme celui-ci, de vous retenir une minute éloignée de votre famille. » Alors il prit congé. M. Tayrol fut sensiblement touché de cette scène. Il avait vu, sans peine, à travers ce discours embarrassé, que sa fille avait fait une forte impression sur le cœur de Mandelbert, mais il ne pouvait comprendre pourquoi celui-ci s'efforçait de le cacher. Ceux qui venaient d'échapper à ce jeune homme paraissaient annoncer qu'il craignait de n'être pas payé de retour, ce qui ne s'accordait guère avec les observations de M. Tayrol sur Camilla. Le bon père regretta qu'en cet instant, elle fût forcée de se séparer de sa mère, avec laquelle il projeta de se consulter de nouveau. Jusqu'à ce jour, Edgar avait, dans toutes les occasions, ouvert entièrement son cœur à M. Tayrol. Dans celle-ci, il fut affligé d'être forcé de lui refuser une première confidence. Cependant, cette confidence devenait inévitable. Il revint au salon pour prendre congé de Mme Tayrol. Mais en ouvrant la porte, il n'aperçut que Camilla. Elle regardait par la fenêtre et ne l'entendit point entrer. La vue de Camilla n'était pas propre à calmer la vive agitation de ses esprits. Le moment, au contraire, lui sembla si favorable qu'il ne put résister à l'idée de le saisir pour mettre fin à ses incertitudes. Camilla était occupée à considérer le cheval d'Edgar et se reprochait intérieurement d'avoir senti du plaisir à la vue de son maître et de l'avoir manifesté. Il ferma doucement la porte, s'approcha de Camilla et lui dit « Je trouve toujours ici des amis aussi vrais, aussi bons, que dans des temps plus heureux. » Camilla, se retournant, fut effrayée de trouver Edgar si près d'elle et de voir qu'il n'était resté personne dans la chambre. Elle rougit et, sans écouter ce qu'il disait, ferma la fenêtre. Elle la rouvrit dans la même minute en bégayant quelques mots qu'elle ne comprenait pas elle-même sur le temps qu'il faisait. À la vue de son embarras, les pensées les plus flatteuses se présentèrent à l'esprit d'Edgar. Il prit une chaise près de Camilla et, d'une voix persuasive, « Voulez-vous permettre, lui dit-il, qu'en faveur de notre longue amitié, je puisse vous parler sans réserve de ce qui a eu lieu ces jours passés à Clèves ?» Elle ne répondait point. La surprise, l'incertitude, la crainte de s'être trompée, l'espoir de quelque heureuse explication, tout conspirait à la troubler pour la confondre et lui faire garder le silence. « Vous ne pouvez, je pense, oublier, continua-t-il, que vous avez daigné me confier le soin de prononcer sur les nouvelles connaissances que vous étiez incertaine de former. Mon cœur, vous le savez, est plein de l'inexprimable intérêt que je n'ai cessé de prendre et que je prendrai toujours à mon vertueux tuteur, à chacun des êtres qui composent sa chère et respectable famille. » Camilla commençait à respirer. Ce dernier mot exprimait sans doute un vif attachement, mais rien n'annonçait un sentiment particulier. En perdant l'espérance, elle recouvra la tranquillité. Edgar observa ce changement sans en comprendre le motif. Mais comme son intention était de l'instruire de tout, avant que de s'abandonner à son penchant, il s'efforça de commander à la peine qu'il ressentait de la voir maîtresse d'elle-même pendant cet entretien. Il souhaitait qu'elle lui répondît sans déguisement. Cependant, elle l'écoutait. Tout à coup, elle se leva et courut au bout de la chambre chercher quelque ouvrage. Edgar, un peu déconcerté, attendit qu'elle vînt se rasseoir. Et Camilla, après quelques minutes passées à chercher ce dont elle n'avait pas besoin, prit une chaise et la plaça près de la table, à quelque distance d'Edgar. Il la suivit gravement et se plaça plus près d'elle. Après une courte pause, « Je m'aperçois, lui dit-il, vous croyez que je vais trop loin ?» Vous voulez que l'intimité de l'enfance, que l'attachement de l'adolescence cessent avec leurs jeux innocents et que cette communication si douce qui les entretenait se rompe brusquement, plutôt que de se changer en une amitié solide, en une confiance durable. Ne dites pas cela, s'écria-t-elle avec émotion, à moins que vous ne sachiez tout ce qui s'est passé, que vous ne connaissiez tous les motifs qui m'ont décidé, vous ne pouvez en prononcer. Mais je vous prie de conserver l'opinion, soit en bien, soit en mal, que vous aviez de moi la semaine dernière. » Ce mot porta la conviction dans l'esprit d'Edgar. Les soupçons s'évanouirent, la confiance et l'admiration leur succédèrent. « Ma chère Camilla, lui dit-il en approchant encore sa chaise, Oubliez mes importunités sur ce sujet. Je vous promets de ne plus vous en parler. » Et moi, répondit-elle, je vous promets. Elle allait ajouter de renoncer à Mistress Albury s'il désapprouvait cette liaison, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit et Miss Margland parut. Il avait pris envie à Sir Hugh d'envoyer un exprès s'informer de l'heure à laquelle Madame Tyrold partirait, et Miss Margland, par curiosité, avait offert ses services. Edgar et Camilla étaient tellement occupés l'un de l'autre qu'ils n'avaient pas entendu la voiture passer par la porte du jardin. La vue d'un spectre n'eut pas plus épouvanté Camilla. Elle se leva machinalement en poussant un cri et courut s'asseoir à l'autre extrémité de la chambre. Edgar, moins embarrassé, n'était cependant pas à son aise. Il se leva, mais plus tranquillement, offrit une chaise à Miss Marland et s'informa de la santé de Sir Hugh.
« Il ne va pas bien, » dit-elle avec humeur, « et cela n'est pas étonnant. »«
Mon oncle serait malade, » dit Camilla. Miss Margland ne daigna pas répondre. Tout le reste de la famille entra dans le salon, et pendant les questions et les réponses qui se suivirent, Edgar, croyant n'être pas observé, s'approcha de Camilla et, d'une voix basse,
« Votre promesse ! Ah, j'espère avoir deviné tout ce qu'elle doit avoir de doux pour moi !» « J'espère que ce cruel contretemps ne me fera rien perdre. »
Camilla ne voyait rien que les yeux de Miss Margland fixés sur elle. Elle feignit de ne point entendre et fut se placer au milieu du groupe. Edgar attendait avec inquiétude une autre occasion de lui parler, mais il attendit en vain. Camilla, qui, depuis l'arrivée de Miss Margland, craignait qu'elle ne cherchât à l'accuser, évita soigneusement Edgar. Et Miss Margland lui fit entendre, par des propos obliques, qu'il ne devait pas rester ainsi sans motif apparent dans cette maison, et de plus qu'elle n'en sortirait qu'après lui. Il se décida donc à partir. À peine fut-il dehors que Miss Margland, en effet, n'ayant plus rien à voir, s'en alla. Il restait peu de doute à Monsieur et à Madame Tyrold sur l'attachement mutuel d'Edgar et de Camilla. Il ne concevait plus d'autre obstacle à leur union que la crainte, peut-être conçue par Edgar, que Camilla ne répondît pas intérieurement à son amour. Ravi de rencontrer une crainte aussi modeste dans un jeune homme si aimable, M. Tyrold protesta que, si l'avantage de la fortune se fût trouvé du côté de Camilla, il mettrait fin lui-même à cette incertitude. Son épouse se glorifiait de voir sa fille cacher avec tant de soin sa tendresse pour un objet qui la méritait si bien. Tous deux décidèrent que, quoiqu'à présent elle dût se trouver peu fréquemment avec Edgar, ils ne feraient point part à Camilla de leurs désirs et de leurs espérances, à moins qu'ils n'y fussent forcés par quelques événements imprévus, et qu'on lui laisserait cependant prendre tous les innocents amusements qui pourraient la retirer de l'état d'abattement où elle était et lui rendre sa vivacité naturelle. Le lendemain matin, le docteur Marchmont vint à Etherington, emmenant avec lui Lionel, d'après la demande de son père lui-même, qui pensait que la douceur pouvait plus que la sévérité, et l'exemple plus que le précepte. Cependant, il ne crut pas devoir songer dans ce moment à combattre la résolution prise par sa femme de partir sans voir Lionel, sachant bien que cette résolution ne provenait point d'un naturel inflexible, mais d'une insurmontable répugnance à voir un fils qu'elle chérissait couvert de déshonneur. Accompagnée du docteur Marchmont, elle partit pour se rendre à Falmouth, où elle avait appris qu'un paquebot devait, sous peu de jours, mettre à la voile pour Lisbonne.